Les 18 et 19 octobre dernier, l'aéronef de Lille fêtait ses 30 ans avec 30 heures de concerts non-stop. L'occasion pour nous de revenir sur l'histoire de ce haut lieu des musiques actuelles dans la région. On vous propose un entretien avec deux des membres fondateurs croisés ce soir-là, Jean-Pascal Reux et Nicolas Robichet. C'est Jean-Pascal Reux qui commence par nous parler des débuts de l'aéro.
Ça a été une longue gestation parce que c'est un projet. En fait, on voulait copier nos voisins belges, hollandais, allemands et autres ailleurs qui investissaient des lieux et qui présentaient la culture d'une génération, on va dire, de moins de 30 ans. Et donc, le projet d'une salle à Lille a commencé à mûrir au début des années 80. Mais il a fallu beaucoup de temps, en tout cas... À l'époque, je trouvais que c'était beaucoup de temps. Aujourd'hui, avec l'âge, peut-être pas tant que ça, mais au moins 6-7 ans, afin de convaincre les élus, les administrations, de nous aider à monter un tel projet. Le projet est né en 89 sur un mensonge. J'ai rencontré l'adjointe à la culture de Lille, qui m'a dit qu'il y a l'opportunité d'avoir un théâtre qui a servi à la Salle Amandre. À l'époque, c'était le Centre Dramatique National. Et ça serait bien que vous fassiez un projet autour du jazz et de la jeune création théâtrale et chorégraphique. J'ai dit oui madame, et il y a eu du jazz, il y a eu de la danse, il y a eu du théâtre, mais il y a eu aussi beaucoup de rock et de musique actuelle naturellement. Voilà, c'est né comme ça en 89, donc ça a mis du temps à se faire, mais bon, elle l'a fait. Donc avec les amis, avec Emmanuel Vinchon qui est à côté de moi, avec Nathalie Robert qui est encore dans l'aéronef d'aujourd'hui, Nicolas Robichet et beaucoup d'autres. Tout ça s'est fait en quelques mois. La programmation s'est faite en juin pour le mois de septembre. C'est une autre époque. J'ai contacté Bachung en juin, vraiment. Et bon, voilà, lui, il voulait répéter sa prochaine tournée. Nous, on allait ouvrir en début septembre. On a tapé dans la main une semaine de répétition pour lui et nous, deux concerts d'ouverture. Et l'aventure a démarré là. Elle a failli s'arrêter au bout de la première année, puisque les voisins et notamment les propriétaires estimaient qu'on faisait beaucoup trop de rock'n'roll. J'avais loué le lieu que pour un an, puisque c'était avec mes sous personnels. Et je ne me voyais pas me mettre dans une mouise pendant plusieurs années. Mais le succès aidant, on a pu rester à l'aéronef, on a eu quelques turbulences parfois, notamment budgétaires naturellement, et puis les choses se sont stabilisées jusqu'à la proposition de Pierre Morrois de venir ici à Euralille. C'était le futur Euralille à l'époque, là on est en 1990, donc le TGV, le Transmanche, ce nouveau quartier, c'était l'occasion de passer l'aéronef dans un nouveau cœur de la ville.
On rencontre encore des gens qui sont nostalgiques de la rue Colzon par rapport à ici. Comment vous voyez ça, l'ambiance là-bas et l'ambiance ici aussi, enfin, pas seulement l'ambiance, mais le projet finalement, quoi.
Ouais, les ambiances, je peux pas les comparer parce que en fait, j'ai dirigé ici pendant un an avant de vivre d'autres aventures. Aujourd'hui, je suis plutôt très loin. Je suis à Brest, au bout du monde, dans le Finistère. Et donc voilà, je ne peux pas comparer les ambiances entre une époque. Et ce n'est pas comparable non plus. Évidemment, on est toujours vieux con quand on parle. Voilà, j'ai 60 ans aujourd'hui, j'avais 30 ans quand j'ai créé l'aéronef. Mais c'est une autre époque à beaucoup de points de vue. C'est une époque où la bande de potes qui était avec moi, on n'hésitait pas à travailler 15-20 heures par jour et tout ça dans une passion folle et... Folle et terrible. Aujourd'hui, c'est interdit par la loi. Donc, il faut bien mesurer les choses. Et je pense, d'une certaine manière, ça devait ressurgir sur les spectateurs. C'était une vraie folie. On avait inventé la carte de décollage pour un prix modique. À l'époque, c'était 500 francs. Donc, ça fait moins de 100 euros. Donc, 90 euros avec l'accès pour les 150 concerts de l'année. Donc, les gens venaient... repartait, c'est la première fois qu'il y avait une salle de concert à Lille avec un bar. Il y avait cette nouveauté. Aujourd'hui, les salles de musique actuelles, il y en a une centaine partout en France. Il y en a même à Brest, une très belle, la Carême. Mais je ne peux pas comparer les ambiances. Par contre, moi, je salue le travail qui est fait. Je sais qu'il y a eu des turbulences, il y a eu des moments où l'aéronef était moins proche de ses valeurs fondamentales, initiales, de découvert, de toujours vouloir faire découvrir, mais aussi faire ressentir des chocs culturels, artistiques, émotionnels aux spectateurs. Et aujourd'hui, avec l'équipe de Benoît Aula, j'ai le sentiment que, et pour preuve cette soirée, ce week-end des 30 heures, que l'esprit est toujours là. Donc ça effectivement, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche sincèrement au cœur. 30 ans après, qui l'eût cru, cette salle existe toujours et l'esprit existe encore, je crois aussi.
Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers, qu'ils soient bons ou mauvais, des souvenirs marquants? J'imagine qu'il y a pas mal d'anecdotes qui tournent autour de vos souvenirs.
Oui, puis ils sont racontés, je crois, ici et là pendant cet anniversaire. On cite beaucoup. Pour moi, c'est un moment important. C'est le concert de la Mano Negra qui devait se dérouler, je pense, en novembre 89, donc deux mois après l'ouverture. Un succès fou, mais aussi, je vous l'ai dit, on n'avait pas tout à fait les mêmes règles, les mêmes consignes et surveillance de sécurité. On a dû accueillir bien plus de monde qu'on le devait ou qu'on le pouvait. Et là, je pense que c'est... Bon, avec, donc, on le sait tous, une avant-scène qui a failli craquer, qui était en bois, avec un pogo d'enfer. Et cette soirée-là a été, je pense, vraiment un tournant parce que tout aurait pu s'arrêter là. Mais je crois qu'on s'est rendu compte aussi que c'était pas seulement une aventure, c'était aussi un métier, des compétences, des règles à respecter. Et donc l'aéronef s'est professionnalisé à partir de là. Donc je veux pas oublier la soirée de folie qu'on a vécue et que j'ai encore en mémoire, vraiment. Mais elle était folle à plein de titres, et bon, la Mano Negra y a joué aussi dans cette folie là quoi. Voilà, c'était vraiment un déclencheur. C'est la première fois que la salle était rate à pleine aussi comme ça. Au départ, les deux concerts avaient réuni le public attendu, mais ensuite on avait une programmation tellement éclectique. Puisque on avait des castras qui venaient chanter, du jazz, des musiques du Bangladesh, des choses peu connues. On se disait, c'est bien, donc les gens vont venir. Bah non, pas toujours. Il fallait déjà qu'on fasse les preuves que tout ce qu'on allait présenter que les gens ne connaissaient pas était de qualité. C'est venu au fur et à mesure comme ça. Et donc ce concert-là, le premier vraiment rate à plein, a été le déclic, je pense, pour tout le reste.
Vous êtes passionné de musique. Au niveau artistique, un choc culturel que vous retenez dans ce que vous avez vu ici ou là-bas à l'aéronef?
Oh non, je ne peux pas répondre à cette question. Et puis, on n'a jamais confondu nos passions personnelles avec la programmation. L'enjeu était de présenter l'actualité, la culture actuelle de l'époque. Donc il y a des choses que personnellement j'aimais pas du tout, et tous les amis avec moi c'était la même chose, mais bon voilà, il fallait les présenter à ceux qui aimaient ces styles ou ces musiques ou ces autres artistes quoi. Non, enfin je peux citer les Residents, Sakamoto, enfin qui sont plus dans ma culture. C'est pas pour autant que c'était les meilleurs concerts que j'ai vus ou que j'ai vu d'eux. Bachung a un rôle un peu particulier dans cette salle. On le sait à la rue Colson, mais on le sait aussi ici à Euralille. En plus, c'est une vieille histoire, Bachung et moi et nous, parce que j'avais été chargé par le ministère de la Culture en 85 d'organiser Coup de talent dans l'Hexagone, qui était c'était Jacques Lang. Il amenait des millions pour dire la culture, c'est pas que l'opéra, etc. Et voilà, c'était pour permettre aux jeunes créateurs dans tous les domaines d'émerger. Et on devait finir cette manifestation d'une semaine avec Bachung. Il s'est cassé le pied ou la hanche ou je ne sais quoi d'autre la veille du concert. Donc voilà, l'ouverture et son parrainage a été une revanche. Là, je parle de c'était en 85, hein, quelques années avant. Et puis c'est quelqu'un ensuite qui a suivi l'aventure, on le sait, qu'on a parlé autour de lui, aux autres artistes, en disant « Ah, il y a un truc là-bas, c'est un peu différent ». Bon, voilà, donc c'est le personnage qui suit, d'une manière ou d'une autre, cette aventure de l'aéronef. Donc, voilà.
Marche le barche gondole dans le roulis, et si on cuit au bas-marie.
Un petit peu de Bachung Live pour illustrer les propos de Jean-Pascal Reux. On est toujours en compagnie de deux des membres fondateurs de l'aéronef de Lille, rencontrés à l'occasion des 30 ans du lieu sans gravité lillois.
Je m'appelle Nicolas Robichet. Et j'étais avec Jean-Pascal dans l'équipe d'origine de l'aéronef en 89.
Et même un coup de talent dans l'Hexagone.
Même avant, on a démarré très tôt, il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans donc qu'on a démarré les choses ensemble.
C'est quoi ? C'est une bande de copains qui étaient fans de musique et qui souhaitaient organiser des concerts ? C'est quoi à la base l'aéronef ?
Alors moi, on m'a présenté Jean-Pascal et c'est mon papa qui me l'a présenté en me disant « Tu dois voir ce mec-là, il va te plaire ». Il aime les choses comme toi, les musiques comme toi. Alors, c'était pas son truc, à mon papa, mais j'étais ravi de rencontrer Jean-Pascal. Et à partir de ce moment-là, il m'a inclus dans son équipe et on a fait des tas de choses avant l'aéro. Et puis après, on a ouvert l'aéro en septembre 89. Ça a été cette superbe aventure.
Ça ressemblait à quoi, l'aéronef, au début ?
Alors, les premiers jours, c'était d'abord un lieu magnifique qui avait été trouvé par Jean-Pascal et Jacques Lotem aussi, je pense, qui était dans le coup à l'époque. C'était un lieu magique qui permettait d'accueillir le public et les artistes d'une façon un peu rustique, mais de plus en plus professionnelle avec le temps. Les débuts étaient magnifiques humainement et c'était une très très belle aventure. Mais on a aussi, nous, dû apprendre très vite le métier, comme le disait Jean-Pascal. Et après certaines dates charnières, on a passé des étapes pour proposer des choses de qualité pour le public et les artistes aussi.
Ce que les gens ont peut-être du mal à comprendre ou à imaginer, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de salle de concert de musique amplifiée.
Il y avait des petites choses, il y avait surtout des grosses choses. Il y avait les gros concerts, il y avait les Johnny, les machins qui tournaient, les grosses tournées. Mais il y avait des pans entiers des cultures et des musiques actuelles qui étaient complètement oubliés. On a aussi profité du manque qu'on a, nous, vécu personnellement. Et après, professionnellement, on s'est rendu compte qu'il fallait remplir ce gap énorme qu'il y avait dans la ville de Lille. Parce qu'il y avait des tout petits endroits avec quelques concerts, et puis des très grosses choses. Et entre les deux, il n'y avait rien.
Quel souvenir marquant vous gardez de la première époque de l'aéronef ?
Alors ça, c'est une habitude de nous demander une anecdote sur 30 ans. C'est toujours très compliqué parce que ça veut dire que c'est un peu restrictif par rapport à tout le reste, parce que c'était une vraie aventure. Je crois qu'on a fait 150 dates la première année, donc il y a eu 150 aventures différentes. La date, je pense que Jean-Pascal parlait de la Mano Negra, qui a été effectivement une date charnière magnifique. Et on a pas mal bossé avec la Mano, évidemment en festival Les Enfants Terribles, mais aussi en salle. Et ça a été un truc de fou. Ça a été un truc de fou pour le public, pour eux. Dans le bouquin de la Mano, d'ailleurs, il y a deux pages sur la date en club, c'était la date de l'aéronef. Ils avaient collecté tous les éléments, les tickets, les badges de l'aéro, le t-shirt, etc. Parce que pour eux aussi, ça a été une date incroyable. Effectivement, la scène s'écroulait, les plafonds tombaient sur le public. Enfin, c'était apocalyptique et fabuleux. Et les gens en gardent un souvenir ému, moi aussi. Mais il y en a eu plein d'autres. Parlons des Fishbone, voir le chanteur des Fishbone arriver le matin, ouvrir la porte. Il était torse nu sous un poncho rose fuchsia avec un chapeau melon, une canne en plexi, et il teste le son de la salle a cappella. C'était assez impressionnant quand on a vu la date qu'ils ont fait le soir en se jetant des balcons sur le public. Enfin, c'était musclé, c'était beau, c'était humainement chouette de relier tous ces gens. Et avec le système des abonnés, ça a permis aussi de mélanger les publics, ce qui était un des buts de l'opération. Nos abonnés ont eu la chance d'avoir accès à plein de choses différentes et de satisfaire leur curiosité, d'aiguiser leur curiosité. c'était chouette.
Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'au début, c'était un peu comme une souscription, quoi. Les gens s'abonnaient.
Il y a un système d'abonnés qui ça coûtait. Alors, les décolleurs, c'était 100 francs pour l'année, pour la saison, avec quelques dates off, mais bon. Donc ça coûtait rien et ça permettait aux curieux de vraiment découvrir énormément de choses. Parce que dans 150 dates de la première année, bon, personne ne pouvait connaître les 150 artistes qu'on a accueillis. Par contre, nos abonnés, les décolleurs, ont pu y avoir accès. À la fois dans tous les domaines, hein, que ce soit le théâtre, la danse, les musiques multiples et variées qu'on proposait. C'est beaucoup 150 dates par an.
C'est énorme. Ça fait un concert.
C'était pour le public, mais c'était beaucoup pour nous aussi. Mais on était jeunes et vigoureux et on y croyait vraiment fort, on y croit toujours. Mais il fallait une sacrée énergie pour mener ça à bien. On l'a eu, puis on est bien heureux aujourd'hui de voir que ça continue très bien ici dans ce qu'on appelait le nouvel aéronef, ce qui est maintenant l'aéronef. Où ce soir il va y avoir un beau truc là, c'est chouette, un beau dispositif, une belle équipe, ça fait plaisir aux anciens, nous les Jurassic Park aéronéfiens.
Vous êtes resté dans les musiques actuelles, vous ?
Ah, pas du tout, j'ai quitté avant l'an 2000 le métier pour devenir jardinier paysagiste aux Antilles et puis ensuite travailler depuis 19 ans avec Médecins Sans Frontières, donc un peu partout dans le monde. Donc c'est complètement différent. Ceci dit, je dis aux médecins avec qui j'ai la chance de travailler sur mes missions avec MSF que ce sont des artistes, que le public c'est les patients, que nous on est là pour faire la prod et faire tourner la boutique. Donc il y a des parallèles, même si c'est très différent, il y a des parallèles entre mon ancien et mon nouveau métier.
Quel regard vous portez sur l'aéronef aujourd'hui ? Bon, là, on est accolé à un centre commercial. On sait que les concerts, c'est devenu aussi un enjeu commercial important. Il y a toutes ces menaces aussi, hein, de l'accaparement, peut-être, des salles de spectacle par le commerce, par le capitalisme, on veut dire. Comment vous voyez ça ?
Alors ça, on en avait conscience il y a longtemps et on essayait d'éviter de tomber dans ces créneaux-là. Il y avait une très jolie phrase qui disait qu'on travaillait pour faire quelque chose, je ne sais plus exactement, mais en dehors des hangars du showbiz qui existaient déjà et des églises de la culture. Et nous, on ne voulait pas ça. Ça existait, on n'avait rien à faire, ils le faisaient déjà. Bien ou pas bien, enfin bref, ça ne nous correspondait pas, c'est pas ça qu'on voulait mettre en avant. Donc on a vraiment monté des programmations tellement variées, tellement ouvertes, et puis on a appris à travailler. Donc pour l'accaparement, je crois qu'il faut rester indépendant au maximum. Alors je sais bien que les choses deviennent compactées maintenant, que les grosses compagnies qui font tourner les artistes, que le disque n'existant plus, il y a d'autres enjeux et le live en est un. Mais je crois qu'il faut essayer de rester indépendant. Je leur souhaite d'en avoir la possibilité.
Peut-être aussi un rapport un peu différent aussi à l'État, aux puissances publiques.
Il y a toujours une volonté de mélanger des budgets qui venaient de la billetterie et des subventions. On prend des risques artistiques qui font que c'est pas bénéficiaire. On ne peut pas gagner de l'argent avec un artiste inconnu. Ça coûte. Ben là, il faut savoir perdre des sous. De temps en temps, c'est pas si courant, mais essayer d'en gagner un petit pour payer pour boucher le trou de la veille ou du lendemain. Mais il y a une logique économique qu'il faut respecter et cet équilibre me semble continuer dans le bon sens.
Qu'est-ce qu'on dit alors ? Bon anniversaire alors ?
On dit super bon anniversaire, merci à vous. Les amis de PFM, mais merci beaucoup aux anciens qui sont là ce soir, au nouveau public, à la nouvelle équipe de l'aéronef qui est extra, et bah, c'est chouette. Puis là, 30 heures, je pense qu'ils vont en prendre plein les mirettes, une fois de plus, et c'est chouette, pour nous les vieux, on peut le dire, de voir que ça continue dans une belle forme.
Nicolas Robichet. Avant lui, on écoutait Jean-Pascal Re, deux des membres fondateurs de l'aéronef de Lille. L'aéronef qui fêtait ses 30 ans lors d'un week-end d'ouverture continue avec 30 heures de concert non-stop quand même. C'est le moment aussi pour nous de remercier l'aéronef pour ses événements, pour sa riche programmation bien sûr, mais aussi pour son accueil. Je pense que tous les PFMiens et les PFMiennes qui ont fait des interviews là-bas pourront vous dire la même chose. C'est vraiment une salle qui ne fait pas de différence entre petits et grands médias, entre journalistes confirmés et jeunes débutants. Et on fait une bise au passage à Danielle, qui est notre interlocutrice privilégiée là-bas depuis plusieurs années. Et personnellement, c'est à l'aéro que j'ai fait mes toutes premières interviews. Babe, wanna come back again.